Un marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Elle est de retour, cette grande absente. Audrey Pinchot qui est avec nous pour l'open mic. Depuis que Audrey me quitte pour enregistrer ses fameux podcasts sextape, eh bien, je me retrouve dans mon studio B où j'enregistre mes podcasts du soir. Et je suis entouré de petits coussins. Un coussin clitoris et l'autre coussin pénis.
Ils sont beaux, hein?
Et là, moi, hier, j'étais avec Samuel Tremblay-Michaud,
oui.
Chroniqueur automobile.
Uh-huh.
Puis là, il s'assoit sur le siège. Puis là, il dit « Ouh! Qu'est-ce que j'ai en dessous de moi? » Ah! Puis là, il a sorti le coussin. C'était le fameux coussin pénis du podcast Sextape.
Ils sont tellement beaux,
c'est assez particulier. J'ai vécu un moment particulier avec lui.
Mais je comprends.
J'étais assis sur mon divan. Il était assis sur le sien. Puis il a sorti un coussin pénis. Et là, ce que je ne savais pas, parce que moi, tu comprends que je les ai pas nécessairement pris dans mes mains. Je ressens pas ce besoin-là.
Devrait son doux.
Il a regardé s'il pouvait enlever la petite peau sur le dessus du coussin.
Oui, bien, ils sont faits pour l'éducation sexuelle dans les écoles. Fait que c'est des coussins qui ont été vraiment... c'est comme des grosses mailles, là. Sont vraiment beaux. Ils sont faits à la main, là. Ça a dû coûter 300 pièces cette affaire-là. Là.
Je pense qu'on l'a-tu mis sur photo? Je l'ai-tu mis sur les réseaux sociaux?
Je pense pas.
Je pense que je voulais juste envoyer
après.
Dans le groupe.
Ouais. Ouais.
Je trouvais que la décoration du studio avait un peu changé depuis que tu faisais ton sextape. Mais est-ce que des fois, tu te poses les questions par rapport à certains produits qui ont été fabriqués? Là? Souvent, quand tu sais que c'est fabriqué à main comme ça, tu sais, ces coussins-là en laine, puis c'est un pénis, puis un clitoris, à quoi pensait la personne qui était en train de le faire? Tu sais, moi, je m'imaginais là, la personne qui était en train de tricoter ça, là, une vieille dame. 90
okay, ans, un là. Okay.
Qui était sur son balcon, puis elle fixait le vide, puis elle regardait les chars qui passaient dans la rue, elle se berçait, puis elle tricotait ça.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus... Mettons, moi, je l'imagine plus comme une dame dans la quarantaine, cinquantaine, qui se spécialise définitivement là-dedans, là, parce que c'est ce qu'elle fait.
Il n'y a pas de marché là-dedans.
Il y a un marché là-dedans.
Non, il n'y a pas de marché là-dedans.
Il y a un marché là-dedans. Là.
Qui achète ça, Audrey?
C'est des coussins, littéralement, qu'elle fait personnalisés. Il y a un marché là-dedans.
T'achètes ça comment?
C'est Mademoiselle V qui... ils sont à Mademoiselle V en passant.
Ah, c'est elle qui les tricote?
C'est pas elle qui les tricote, c'est elle qui les a commandés. Puis elle me partageait que ça vaut facilement autour de comme 300 $, là. Parce que c'est gros, là. C'est la reproduction d'un clitoris interne-externe. C'est gigantesque, cette affaire-là. Là. Puis
coussin...
c'est la reproduction d'un pénis également. Là.
Coussin pénis. 144$.
Non, mais c'est ça.
Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi?
Je sais pas. Je sais qu'il y en a aux boutiques au 7e ciel.
Mais il y a doudoubite.
Oui, mais là, c'est ça. Ça, c'est des coussins qui sont. Une de mes photos préférées, d'ailleurs, c'est toi qui l'as prise et c'est avec doudoubite.
Coussin, pénis, laine.
Mais elle, c'est vraiment. C'est ça, là. C'est brodé avec des grosses mailles de laine. Là. C'est magnifique.
Je les ai ici.
T'es ça. Bon, je te l'avais dit qu'il y avait un marché pour ça. Yann, il y a un marché pour tout.
Ça se vend sur Etsy.
Mais j'en doute pas. C'est une dame qui fait ça à la main.
Ouais.
C'est
mais bref,
capoté.
Quand mon chroniqueur a sorti ça d'en dessous de lui, parce qu'il n'avait pas regardé où il s'assoyait, il l'a sorti, puis on s'est comme regardé les yeux, c'est comme un contact.
Oui, que c'est ça, mettons, qu'est-ce qu'on vient
comme,
de vivre?
On se sentait comme mal. Puis là, il a dit, mais c'est quoi ça?
Oh, là, je comprends.
Là, j'ai résumé, c'est Audrey.
Oh!
Puis il a tout compris.
Franchement.
Il a tout compris.
Parce que Sam est un bon ami.
400 pièces!
Ah non, c'est fou, là. Mais c'est parce que c'est du travail, veux pas.
Mais ça, vous amenez ça dans un party de filles, là. Mais
non,
sinon,
non.
C'est pas une décoration de maison, là.
Non, c'est vraiment pour... Mademoiselle V s'en sert pour l'éducation sexuelle. Parce que, justement, tu peux tout bouger dessus, là. Tu peux tout gosser, tu peux tout... tu peux faire ce que tu veux avec ces coussins-là. Elle a aussi des prothèses qu'elle utilise. Moi, tu vois, ma limite était là, puis je pensais pas... Je suis pas une fille de malaise, ben en vie, il n'y a pas grand tabou. Mais on a enregistré deux podcasts hier, puis elle a amené des prothèses phalliques, puis des intérieurs de jambes féminines, là, de toutes sortes. Là. Puis là, il y avait tout ça à côté de moi. Puis là, tu vois, je me sentais entourée. C'est ça. Bien ou mal entourée, je sais pas, mais j'étais très entourée.
Ne marquez jamais coussin pénis laine sur Google.
Ça va vous donner une idée en même temps.
Etsy ne vend que ça, j'ai l'impression.
Oui.
Puis regarde celle-là. C'est comme un bonnet. Un bonnet.
Mais ça, c'est un. Mais ça, c'est un pénis pocket.
Un quoi?
C'est un pénis pocket.
Tu connais ça, toi?
Ben oui, mais c'est littéralement un cache-manche, là.
Oui, en laine.
Oui.
OK. Petit chum, as-tu ça?
Non.
Pourquoi tu connais ça?
Parce que il y a une entreprise qui s'appelle Quels sont vos goûts? qui font des bobettes avec des pénis pocket intégrés. C'est là que j'ai appris la première existence des pénis pocket.
Ouais. Mais ça, je comprends s'il y a une bobette d'intégrée à son pénis pocket. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment un truc pour enrober les testicules puis prendre le pénis au complet. Avec une petite ficelle au-dessus pour attacher tout ça. Tu te promènes juste avec ça dans la maison?
Mais c'est ça, ça doit être une affaire de bachelorette, cette affaire-là.
Si tu arrives dans ma... Mettons, tu arrives de travailler, t'es brûlé, tu chambres et t'habilles de même.
Morderé.
Ça marche-tu? Y a-tu quelque chose en toi qui...
Non, morderé.
Ouais.
Probablement que je le verrai plus jamais de la même façon.
Ça me rassure.
Mais Etsy, c'est une plateforme qui habite en fait toutes sortes de d'entreprises ou de particuliers québécois qui font justement des affaires en main, là, des productions locales. Là. Fait que, tu sais, il y a des entreprises qui... Il y a des corps aussi en toutou. Il y a toutes sortes d'affaires.
Ouais.
Mais des gens qui ont besoin de se coller, mettons, tu sais, le soir, qui ont besoin d'avoir quelque chose à coller, bien souvent, c'est ces gens-là qui vont se procurer ces trucs-là.
OK. Mais parlant de ces affaires-là, hier, j'étais à la salle Albert Rousseau, j'ai braillé de rire. Moi,
Mike Ward,
c'est le mien. Ça a toujours été le mien depuis le début. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il y a un humour peut-être un peu trop dark, puis ça sonne des fois un peu pipi-caca. Mais moi, j'aime ça me laisser aller. Je m'assois sur mon siège puis je me fais raconter les histoires de Mike Ward. Écoute, du début jusqu'à la fin, j'ai braillé. J'étais dans cette salle-là, visiblement, j'étais avec des fans de Mike Ward qui, à la sortie, disaient « Ah, c'est pas son meilleur. »
Hein, pour vrai, OK.
Mais je suis pas capable. Tu sais, il y en a qui sont capables. Mettons, Véro Bergeron, elle va voir un film, là, puis elle est capable de dire si, mettons, l'acteur, il est dans ses meilleures performances ou pas. Moi, je suis pas capable de faire ça. T'sais, moi, je m'assois, je mets mon cerveau complètement à off, puis j'écoute la personne qui est devant moi me raconter ses histoires. Je braillais. Du début jusqu'à la fin, je braillais. Je rêve qu'un jour, on puisse faire ce genre de truc-là à la radio puis que ce soit permis.
Ça arrivera
parce que ça va extrêmement loin. Puis on n'insulte pas personne, là, mais ça va extrêmement loin. Puis toutes les histoires qu'ils nous racontent. Puis, tu sais, on parlait justement des trucs, des pénis en laine là, que les femmes pouvaient acheter pour se réconforter la nuit, ce qui est un peu bizarre. Mais lui, il parlait des boutiques érotiques. Puis il n'y a pas tort sur le fait que, pour les filles, il y a un vaste éventail de choix dans les boutiques érotiques.
Ben oui.
Mais pour les gars, c'est extrêmement complexe. Puis si t'es timide, ça va être encore plus difficile. Il y a des petits appareils, là, tu sais. Mélissa Tessier du 7e ciel vient me voir des fois, puis là, elle montre des affaires. Tu sais, Yann, regarde, ça, c'est petit, c'est coquet, c'est pour la prostate, mettons.
Ouais.
Ça, c'est tel que tel. Mais tu te vois-tu, toi, être un homme, Audrey, puis sortir avec un tronc?
Non.
De la boutique érotique.
Mais je me vois pas non plus comme femme sortir avec un tronc, mettons.
Tu sais, les filles, vous avez comme 45 dildos. Je sais pas ce que vous faites avec ça, là, mais vous avez comme 45 dildos différents. Ben, en fait, je sais ce que vous faites avec ça, mais je sais pas pourquoi vous en avez autant.
J'étais comme Bella Yann.
Mais vous les utilisez, vous les passez en dessous de l'eau, vous lavez ça, merci, bonsoir, vous remettez ça dans le tiroir.
Mm-hmm.
Mais un tronc? OK, t'as peu. Je vais faire exactement ce qu'il nous a dit de faire. Là. Tu rentres à la boutique, là, tu fais semblant que t'es un grand connaisseur, tu croises finalement le fameux tronc avec le tronc féminin là, que tu désires, c'était hétéro, et là, t'arrives à la caisse, puis là, tu mets ton tronc sur la caisse.
Oui.
Puis là, la fille, elle dit, veux-tu un sac? Oui, je vais prendre un sac.
C'est possible.
Puis là, tu t'en vas avec ton tronc chez vous. Mm-hmm. Puis là, tu dis, OK, là, c'est quand même assez gros, ce tronc-là. Puis là, il faut que tu le ranges à quelque part. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, ça te tente. Tu dis, mais essayez mon tronc. Puis là, ben, tu sors le tronc. Puis là, tu l'essayes. Puis là, après ça, ben, tu peux pas le laisser là, ça va pourrir. Là.
Ouais, faut que tu le nettoies.
Fait que faut que tu le nettoies. Mais c'est pas comme un dildo. Le dildo, tu fais juste poser tes mains, chou, merci, bonsoir, c'est propre.
Là, faut que tu utilises tes doigts. Là. Faut que tu...
Mais là, faut que tu mettes tes doigts dans l'affaire où tu veux jamais mettre tes doigts.
Ouais.
Tu comprends? Parce que c'est pas un être humain. T'sais. Puis là, faut que tu laves ça avec du savon, puis tout. Là, tu le regardes, tu t'enlignes dans le trou, il en reste ça encore. Puis là, tu repasses toutes ces affaires-là.
C'est vrai qu'on pense pas.
Sérieux, il a raison.
Mais c'est vrai.
C'est complexe pour les gars.
Oui, mais c'est sûr que c'est différent parce que c'est ça, vous autres, vous avez le trou à gérer après.
Je te pose une question. Tu connais pas Tichum?
Oui.
T'es avec, là. T'es avec depuis combien de temps?
6 ans.
6 ans. OK. Tu le connais pas tout. Tu le croises au 7e ciel, tu dis « Ouh, beau gars », mais tout d'un coup, tu t'aperçois que dans ses mains, il y a un tronc. T'es-tu avec pendant 6 ans?
Non.
Mais si on croise une fille qui a un dildo, nous autres, on considère ça comme quoi c'est normal.
T'as raison. Ben, t'as raison. Mais en même temps, je pense que Mettons que je suis un homme, puis que je croise une femme avec un tronc, je réagis de la même façon. Dans le sens que les gars, vous avez des machines, là, vous avez des affaires plus subtiles. Tu sais, vous avez des affaires à des patentes à branlettes portatives.
Oui, mais encore là.
Oui, mais ça traverse.
Faut que tu nettoies ça.
Oui, mais des fois, t'en as que il y a des trous de bord, là.
Moi, à partir du moment où faut que je nettoie ça, je crée ça au vidange.
Je comprends. Non, mais là-dessus, je comprends. Puis ça coûte assez cher que tu peux pas l'utiliser juste une fois.
Je me ruinerais, là.
Non, mais je te suis complètement.
Puis imagine-toi le gars dans le centre de recyclage.
Oui.
Qui voit le tronc passer. Hein? Un autre.
Mais. Il récupère.
Un autre qui. Ça, il tentait pas de le laver.
Okay. Mais je veux te dire, si ça peut te rassurer, je sais que c'est plus facile à laver pour nous autres.
Oui, 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 vraiment.
Mais c'est pas plus le fun.
Plus le fun à laver?
Mais c'est pas plus le fun à laver parce que dis-toi que le processus est le même. Dans le sens que si, mettons, tu fais ça avant de te coucher puis tu le laisses là sur ta table de nuit, ben le lendemain, c'est comme croûté. C'est pas plus le fun.
Le processus n'est pas le même. Tu t'assais-tu...
Mais c'est le même dans le sens qu'il faut que
t'ailles
le laver.
Avec ton œil, là, t'assais-tu de voir s'il en reste dans le centre?
Mais
dans
ça dépend quel appareil.
Je te parle du tronc.
Ben oui, là, si tu parles du tronc, on s'entend. Là, mais moi, mettons, tu sais qu'on parle d'orifice à laver. Là, le womanizer, là.
Ouais.
Le womanizer, là, faut que t'aies gossé avec ton doigt en dedans pour le laver, là. Parce que le womanizer, c'est un trou avec lequel il y a une pulsion à air sur lequel tu colles ton clitoris.
Ouais.
On va utiliser les vrais mots matin, là. Ce qui fait que tu comprendras que tout rentre là-dedans. Fait qu'on passe un peu par le même processus que vous autres de devoir aller comme curer notre appareil là, pour qu'il soit propre. Puis que tu te pognes pas une infection éventuellement.
Mais
je comprends que tu n'as pas regardé dans le trou. Ça, je comprends que c'est pas la même affaire.
Je préfère encore une femme à un tronc.
J'espère.
D'un, elle va se laver de seule. Là.
Oui. Puis ça, c'est le bout de plate pour nous autres.
Puis moi, je peux dormir.
Hey, ça, on peut-tu en parler? Une affaire là, qu'on nous apprend pas.
Hey, quelqu'un qui dit mets ça dans le lave-vaisselle, les gars.
Voyons donc!
Urk! Non, jamais. Puis là, c'est la deuxième ou la troisième fois que je le compte, là, mais moi, j'ai un de mes anciens collègues, Laurent. Pour les gens qui ont suivi un peu ma vie en radio, là, j'ai eu un collègue qui s'appelait Laurent, qu'on appelait Larry. Puis il travaillait dans une station de radio à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis il recevait une fille qui avait une boutique érotique et tout ça, patati patata. Puis un moment donné, elle dit « Tiens, Laurent, je te donne ce cadeau-là. » Puis c'était une masturbatrice. Fait que Laurent, puis je peux me le permettre de le dire parce qu'il me l'a raconté en ondes. Fait que Laurent, il se dit « Ben, regarde, je suis pas plus fou qu'un autre. J'ai jamais essayé ça. Je vais l'essayer. »
Oui.
Fait qu'il décide de s'en donner à cœur joie le soir même. Puis le lendemain, ben, il revient à job. Et là, il y a un représentant qui avait entendu la fameuse chronique entre la fille de la boutique érotique puis Larry. Puis là, il a dit à Laurent, « Hey, puis ton masturbateur, t'as-tu aimé ça? » Larry dit, « Non, non, je suis pas sûr. » Fait que là, il dit, « Hey, ça te dérangerait-tu de me le donner? »
Urk!
Ouais. Et Laurent, ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'il était en colocation à ce moment-là, puis il avait mis ça dans le lave-vaisselle.
C'est horrible.
Puis il est en colocation.
Ah non.
Fait qu'imagine-toi le coloc qui arrive, qui veut prendre. Ah, il n'y a plus de verre propre.
Le masturbateur.
Il ouvre le lave-vaisselle, il prend le verre, puis d'un coup à côté, il y a le masturbateur à Laurent. Ouais, ne jamais faire ça.
Non,
jamais.
Ça, c'est un. Mais moi, dans le lave-vaisselle, il n'y a rien qui va là à part ma vaisselle.
Ouais.
Puis si je sais qu'il y a des gens qui vont mettre leurs souliers là-dedans, leurs casquettes, toutes sortes d'affaires pour laver parce qu'il paraît que ça lave bien puis ça désinfecte bien. Mais hey, tu manges là-dedans. Puis tu bois, puis tu... Ah! Ah! Non. Là où je m'en allais, là, tantôt, c'est qu'on n'explique pas aux femmes et aux hommes, parce que je sais pas si c'est quelque chose à quoi vous vous attendez ou auquel vous pensez là, dans votre jeunesse. Là.
Les troncs, jamais.
Non. Après une relation...
Même après avoir vu la vidéo, là, Luca Rocco Magnata, là, ça m'a pas plus allumé.
Non plus?
Non.
C'était dégueulasse. On nous explique pas qu'il faut que ça se lave, justement. Faut que tu ailles te nettoyer. Tu sais, dans les films, quand tu vois des belles scènes, là,
oui.
D'amour...
Ils font l'amour, puis après ça, ils se collent.
Ils se couchent, puis ils se collent, puis la vie est belle, puis tu passes à autre chose. Chris, c'est pas de même ça se passe, on va se le dire. Là.
Non.
C'est vraiment lourd, là. Tu
ben,
finis,
lourd.
Là... Mais non, mais là, hey, oui, lourd. Pour
vous autres,
toi,
ça
c'est
vous
pas
réveille,
si pire, là. Ben, un, ça nous réveille.
Vous autres, ça nous endort.
Deux, t'es là avec ta main dans ton entrejambe, pas que ça coule partout, puis t'essaies de te rendre aux toilettes le plus vite possible.
Mm-hmm.
T'as pas le choix d'y aller, parce que...
Vous avez le droit de le faire, faites juste pas nous réveiller.
Oui, c'est ça l'affaire. Ça, c'est tellement chiant, là. Pour vrai, là, on n'en parle pas assez de ça. Vous autres qui avez la chance de vous endormir paisiblement
ouais.
Après, tu sais, c'est un relaxant.
Oui, ben oui, c'est ça.
Nous autres, ça nous réveille carrément. Là, puis ça, c'est prouvé. Là. C'est ce que fait l'orgasme chez l'homme, contrairement à chez la femme. Nous autres, on a le goût de jaser après.
Ouais.
On a le goût de revenir sur ce qui s'est passé.
J'en parlais avec Pascal hier. Ben pas en ondes. J'en parlais avec Pascal hier. C'est la fameuse question « À quoi tu penses? »
Oui, c'est ça. « À quoi tu penses? »
À quoi tu penses?
Je l'ai posé longtemps, cette question.
Ouais, mais on pense à rien. Puis c'est vrai qu'on
c'est-tu
pense
vrai?
À rien. Ouais. Je sais que c'est dur
moi, ça
pour vous autres.
Ouais, de quoi
je
tu
sais que c'est dur pour vous autres d'accepter qu'on pense à rien parce que vous autres, vous pensez tout le temps.
Ouais.
Il m'aime-tu? Il m'aime pas? C'était-tu juste pour un soir? C'était-tu juste pour la vie? Calme-toi, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Mais nous autres, on pense à rien. On part dans les bras de Morphée, qui est un homme, soit dit en passant, c'est un peu bizarre. Mais on part dans les bras de Morphée.
Mais nous autres, on pense tout le temps à quelque chose.
Ouais.
C'est rare un moment dans ma vie où je peux dire qu'il ne se passait rien dans ma tête. Puis tu sais, plus là, tu essaies de vider ta tête, plus tu penses à des affaires. Là. Mais on dirait que vous autres, ça vous arrive souvent d'avoir le coco vide.
Ouais. Ouais, oui, 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 ça arrive souvent.
Oui, tu me confirmes.
Certains d'autres que plus.
Mais bref, juste pour en revenir au début de notre histoire, j'ai été voir Mike Ward hier à la salle Albert Rousseau.
Tu le recommandes?
Je le conseille à tout le monde, surtout ceux qui aiment ce type d'humour-là. Là, vous allez être agréablement surpris. Un gars hyper sympathique, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré en personne.
Non, mais il a l'air sympathique. Il y a une bouille de gars sympathique.
C'est un gars sympathique, c'est un gars humain. Il a certainement un problème de boisson, là. Mais...
mais ça, c'est pas nouveau. Là.
C'est un gars qui est vraiment, vraiment nice, pour de vrai. Là. Vendredi, Audrey?
Oui?
Est-ce qu'on achète un Lotomax, toi puis moi?
Hey, on pourrait faire ça.
Oui, on le prend avec extra.
Oui, oui, why not coconut?
Fait que c'est quoi, c'est 6 piastres? Parce que vendredi, le Lotomax est à 73 millions, dont un gros lot de 65 millions.
Est-ce que tu en achètes beaucoup pour vrai?
Non, j'achète juste quand c'est au-dessus de 50 millions.
Ah oui?
Parce qu'en bas de ça, je n'aurais pas assez.
Les auditeurs, achetez-vous 88-971-1021. J'ai toujours pensé que tu pitchais ton argent par les fenêtres.
Oui, ben c'est ça que tu fais, en fait. Là. Mais ça te permet de rêver. Ça te permet de rêver pendant quelques heures. Fait que moi, je vais aller acheter un billet pour moi personnellement, puis je vais aller acheter un billet pour nous deux.
Ah oh ouais?
Tu sais quoi?
Puis fais ça, je vais te donner la moitié.
Oui.
Puis si on est riche, ben
faut que tu payes avant, par exemple.
Parfait.
Parce que c'est facile de dire, puis on a-tu gagné, puis après ça, m'oublier.
Non, j'oublie. Les bons comptes font les bons amis. Hein?
Uh-huh. Fait que je vais en acheter deux. En acheter un pour moi personnellement, puis je vais en acheter un pour toi.
Tu me pinky, là, que tu vas en acheter un pour nous, là.
Oui.
Jure.
Tu sais quoi? Tiens, je vais m'engager à ça. 418-971-1021 par texto. Écrivez l'Automax. Tiens. Fait que tous ceux qui auront écrit l'Automax vont être dans le pot pour gagner le gros lot de 65 millions que je vais acheter avec Audrey.
Et c'est quand même un gros commitment que tu fais.
Ben, ça me coûte 6 piastres. Ça me coûtera jamais plus cher que 6 piastres.
Mais imagine qu'on gagne. Tu vas regretter d'avoir partagé
ben
ça avec tout le monde.
Ben non. 418-971-1021. On n'a pas besoin d'argent, on est heureux.
On va noter vos noms.
418-971-1021, il faut écrire l'Automax, puis vous embarquez dans le pot. Mais n'oubliez pas d'écrire l'Automax, les amis, parce que sinon, je ne peux pas vous retrouver vendredi si on gagne.
Non, c'est ça, parce qu'on peut faire une recherche par l'Automax.
Mais là, c'est vrai, là, j'achète deux billets. Là,
oui, je te fais confiance.
Puis je vais t'envoyer le billet que je vais acheter pour nous deux.
Parfait.
Je vais t'en l'envoyer avec une photo.
OK.
Fait que comme ça, tu vas avoir la preuve. Que c'est le bon, oui. Parce que là, s'il y a un des deux billets qui gagne, tu comprends.
Là, tu vas dire que c'est le tien. Non, c'est ça.
Pas plus gaffe qu'un autre.
C'est ça. Tu vas m'envoyer la photo du nôtre et de celui des auditeurs.
Exact. Fait qu'on va écrire.
Les gens écrivent. Écoute.
Marceau, Pinchot et les auditeurs de Boulevard 102.
C'est un Lotomax de combien, t'as dit?
65 millions.
65 millions. Là, on est une gang à date, moi, de dire.
On a une couple de 1000 certains. Là.
Ben oui. Moi, écoute, si j'ai 1000 en partant, là, je vais être contente. Juste 1000, je serais déjà content.
OK. Mais t'imagines-tu à quel point tu dois pas. Du jour au lendemain, tu dois plus être la même personne? Tu sais, moi, je suis vraiment pas angoissé comme individu. Je suis vraiment pas stressé. Mais tu me donnes 65 millions, là. C'est 1 milliard d'angoisse que tu viens de me mettre sur les épaules. Là.
Pourquoi?
C'est un super de beau problème, là. Vous allez me dire. Mais c'est 1 milliard parce que j'ai pas à me poser de questions par rapport à l'argent. Tu sais, je ne vis pas à la petite semaine.
Ouais.
Je gagne bien ma vie. J'ai une couple d'affaires qui sont placées. Mais tu me donnes 65 millions, là. Mes amis, si tu es encore mes amis? Mes amis qui sont dans le besoin, faut-tu que je les aide? Je les aide jusqu'à quel point?
Non, mais moi, je pense que c'est ça, faut que tu mettes une limite.
Les enfants malades, les parents d'enfants malades qui vont venir me voir pour me dire, Yann, traitement expérimental aux États-Unis, au Canada, on n'offre pas ce traitement expérimental-là, ça te coûte 30 000, tu veux-tu embarquer pour sauver la vie de mon enfant? Tu me tues, là?
Ouais,
tu m'empêches de dormir.
Mais là, tu sais, t'es pas Mère Teresa, là. Faut que tu mettes des limites en partant.
Plus beau qu'elle.
Tu peux. J'ai pas le choix de te le donner.
Surtout actuellement.
Non, mais tu mets des limites. T'es ta famille. Tu payes une maison à chacun de tes gars avec un terrain, tu comprends ce qui va faire partie de leur héritage pour leur vie. Tu payes toutes tes dettes, toutes tes petites bébelles, tout, tu contrôles ce que tu peux contrôler en ce moment.
Mais là, calmez-vous par texto, c'est juste 65 millions, sacrament.
Ouais, ben là, je te confirme que je suis sûre qu'il nous en reste beaucoup parce qu'au nombre de textos qui rentrent. Hey, ça, c'est vraiment niaiseux. On n'a jamais eu autant de textos pour un concours à Boulevard 102.
C'est pas un concours!
Mais c'est ça, c'est pas un concours.
Je vous embarque dans le pot, si on gagne, moi et Audrey, je vous embarque dans le pot.
Mais le point, c'est que les gens ont un grand intérêt, là.
Sacrement, je me suis mis dans la merde.
Hey, vous avez plus de chances. Puis là, écoute, je vais faire un lien boiteux, là. Mais vous avez plus de chances de gagner notre concours Rock'n'Ball que de gagner avec l'Automax qu'on va acheter vendredi. Si vous avez aucune idée, c'est quoi le Rock'n'Ball? C'est une promo qu'on a lancée lundi qui est notre plus grosse promo station. Ça fait plusieurs années qu'on le reconduit. Vous avez jusqu'au 17 avril, 13h, pour participer, pour vous inscrire. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 fois par jour. C'est assez simple. Quand vous entendez une toune de Linkin Park, vous notez l'heure, vous la mettez sur le blvd.fm, OK? Et ce qu'on vous offre, c'est un trip à Boston pour voir Linkin Park et les Red Sox les 1er et 2 août. 500$ d'argent de poche. 2 500$ en crédit voyage pour le vol, l'hébergement. C'est avec le club voyage La Forfaiterie qu'on fait affaire. Puis, bon, tout ça est possible grâce à Nokian Tires, Dernais, Pneus et Mécaniques. Mais vous avez plus de chances de gagner ce concours-là que le Loto Max.
Non, mais ils sont en train de me ruiner, puis j'ai même pas encore gagné.
Il y a jamais autant de textos que ça qui est tenté. C'est ridicule.
C'est tout ce monde-là qui nous écoute?
Ben, c'est ça que je suis en train de me dire, là.
Puis toi, tu parles de ta vie sexuelle?
Ben, c'est ça que je suis en train de me dire aussi.
OK. Ben, il faut vraiment écrire l'Automax en passant, là, 418-971-1021. Puis, bon, ben, Audrey va tout comptabiliser ça. Audrey va vous répondre à tout
oui,
le monde.
Elle
bonjour.
A du temps. Oui, Audrey, elle a vraiment. Elle a que ça à faire. Audrey, elle a du temps. Elle va faire ça, vous répondre un par un.
Wow! OK. Hey, aujourd'hui, c'est un gros show. Bien honnêtement, là, on parlera pas juste de l'Automax, là, mais on va parler de plein d'autres sujets.
Oui, on est intelligent aujourd'hui.
Oui, ben, c'est oui, ça va faire changement. On va recevoir une personne qui travaille pour la Fondation Cerveau.
Oui, mais c'est Caroline Ménard. Elle est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, puis effectivement, elle est chercheuse au Centre de recherche Cerveau. On va parler de la découverte d'une protéine clé dans la résilience face au stress. Là, ça a l'air bien gros, mais on va vulgariser ça. Le point, c'est qu'il y a une protéine qui pourrait nous aider à être du monde moins angoissé et stressé au quotidien. Puis ça peut peut-être se retrouver dans ce qu'on mange, ce qu'on consomme au quotidien. Fait que c'est de ça qu'on va jaser avec Caroline Ménard dans les prochaines minutes.
OK, ça semble être arrêté, là.
T'es sûr? Parce que moi, ça rentre encore.
À moins que...
Des fois, il y a des bugs.
À moins que de jammer l'ordinateur.
Quand tout le monde est là en même temps, là.
Oh boy. OK. Hey, le clan de la savate Mandy Monaco s'en vient dans les prochaines secondes. Il y aura des news de Max, bien entendu. Et par la suite, on vous revient. Avec d'autres folies. Sérieux, je pensais qu'on allait faire de l'argent, là.
On fera pas l'argent, c'est terminé. Achète pas de l'Automax, ça sert à rien.
Non, c'est ça. Puis je vous rappelle, défaite du Canadien hier, 6-1. Contre Saint-Louis, non, on s'est fait brasser. Suzuki qui était le seul marqueur du CH. Chamel Montembeault qui a été chassé après 5 buts. Les 4 premiers buts, c'est vraiment pas de sa faute. La dernière, le dernier but, je te dirais qu'il l'a échappé un peu. Le prochain match, c'est demain contre Philadelphie. Il y a le tricolore qui garde sa place en série pour l'instant, mais va la perdre si les Islanders de New York gagnent contre les Canucks de Vancouver à Long Island ce soir. Donc, c'est à suivre. Mandy Monaco, le clan de la savate sur Boulevard. OK, ben quoi qu'on fasse vendredi, Audrey, avec les 2 billets de l'Automax qu'on va acheter, je te garantis qu'on sera pas millionnaire.
Non, ben là, je pense que tant qu'à avoir 5 piastres chaque, on est aussi bien de laisser tomber le projet.
Non, tu vas payer pareil.
Ah ouais?
Non, c'est une promesse. Bon. Okay. Pas le choix, ça va être à la gang.
On va le faire.
Au pire, on se fera un gros party avec le 50 cents qui nous restera.
Là. C'est ça. Tu m'enverras la photo officielle de toi et le billet, je vais la mettre sur nos réseaux sociaux.
Oui.
Pour que tout le monde voit qu'il n'y a pas de tricherie ici, puis on va faire ça.
C'est 1 degré sur Québec, c'est pluvieux dans la région de Québec. Est-ce qu'on mentionne. C'est peut-être en hauteur, peut-être un peu de neige. On parle de 5 cm pour aujourd'hui en terrain montagneux. Maximum de plus 3 degrés. Ce soir, cette nuit, des averses. 2 cm, c'est ce qu'on nous mentionne pour ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, un ciel dégagé, maximum de plus 4 degrés. En soirée, de la neige intermittente, minimum de moins 4 degrés. Vendredi, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 1.
Capitale, direction ouest, juste avant la bretelle pour Henri IV Nord, la voie de droite qui est bloquée. Il y aura un accident dans ce coin-là. Si vous avez des détails, 971-1021 texto.
10h34, on reçoit Caroline Ménard, qui est professeure à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Salut Caroline!
Salut!
Merci d'être là avec nous, c'est super sympathique de ta part de t'être déplacée. Vous faites des recherches sur le stress?
Oui. D'abord, ça me fait plaisir que vous m'ayez invité. Vous êtes le poste de radio que j'écoute depuis que je suis arrivée à Québec il y a 7 ans maintenant.
Oui!
Ouais.
C'est donc belle fois!
Oui, j'étais super excitée de vous, que vous m'invitiez.
Ah, j'aime ça, ça!
C'est-tu pour Red? C'est-tu pour Denis? C'est-tu
vous êtes tout le temps dans l'auto en général.
C'est vrai?
Oh, ouais.
Ah, c'est vraiment le fun, ça!
qui dit plus de niaiseries?
Ah, ça dépend de combien de café qui a été pris, je pense.
Ouais. Okay.
Ça dépend des jours, oui, des semaines.
Voilà. Des sujets. Le sujet est intéressant quand je me suis envenue tantôt.
On va essayer d'être intelligent pour les prochaines minutes, Caroline. Comment t'en es venue à décider de faire des recherches sur le stress? Parce que le stress, on dirait que c'est mondial. Là. Il y a certains endroits dans le monde où les gens semblent peut-être un peu moins stressés, mais ils peuvent être anxieux aussi. Mm. Ça peut être une forme de stress. Ouais. Comment t'en es venue à t'intéresser à ça?
Bien, nous, on s'intéresse à la biologie. Qui est en arrière du stress. Donc, on s'intéresse beaucoup à savoir pourquoi il y a des gens qui sont vulnérables, qui vont développer un trouble de l'humeur comme la dépression, mais pourquoi il y a des gens qui sont résilients, parce qu'on est tous stressés, comme tu viens de le mentionner, mais c'est pas tout le monde qui va développer une dépression. Fait, qu'est-ce qui nous rend résilients ou qu'est-ce qui nous rend plus tendance à être déprimés? Puis des fois, il y a des mêmes personnes qui peuvent être très résilients pendant longtemps, puis éventuellement devenir déprimés. Fait qu'on on s'étudie la biologie derrière ça.
C'est quoi la différence entre le stress puis l'anxiété? Tu sais, Anne, t'as nommé les deux, mais on se fait souvent dire que c'est pas la même chose, puis c'est pas les mêmes réactions sur le cerveau.
Non, puis nous, on s'intéresse beaucoup au stress chronique. Donc, c'est important de faire la différence entre un stress aigu, parce que du stress aigu, par exemple, être pris dans le trafic ou faire une présentation, on a une forme de contrôle sur la situation, puis ça dure un certain temps. C'est assez limité. Comme moi ici qui vous parle, là, pendant 20 minutes, je suis arrivée des papillons dans l'estomac, mais après ça, je vais me retourner, ça va retomber à la normale.
C'est un stress passager.
C'est ça. Mais le stress chronique qui va durer longtemps, qui va être sur une longue période, sur lequel on a peu de contrôle, puis aussi qui va créer de l'insécurité ou qui va être très imprévisible, c'est là qu'on a des dangers d'aller vers une dépression ou plus. Développe un trouble anxieux.
Est-ce que le stress a une fonction qui peut être positive chez l'être humain?
Oui. D'habitude, quand je donne des présentations, c'est la dernière diapo. Moi, je suis une personne optimiste dans la vie. Le stress, c'est pas juste négatif, ça nous aide à survivre.
Ouais.
C'est important de faire face au stress pour développer des stratégies aussi quand on fait face à l'adversité. Donc, si jamais on vit une situation comme la perte d'un proche, perte d'un emploi, un divorce, si on n'a jamais vécu de stress, on ne sera pas préparé à faire face à ça. Ça nous a aussi aidé à survivre comme espèce. Donc, toute la mécanique de est-ce qu'on combat ou on fuit. Par exemple, si on vit, on est en camping, on entend un ours, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le stress nous prépare à ça.
On arrive tout le temps, quand il y a des possibilités d'avoir des ours autour, là, on arrive tout le temps avec quelqu'un qui court moins vite.
Idéalement.
C'est celle-là que tu laisses derrière.
C'est ta chance de survie.
C'est ce qui fait la différence entre le stress et l'anxiété sur le moment.
Oui. Vraiment en camping dans deux semaines, Audrey.
C'est toi que je laisserai derrière. C'est ça, je te laisse en arrière. Comment ça fonctionne chimiquement dans le cerveau? Là, ça a toujours fait partie de nos vies, le stress ou l'anxiété. Bref, ça se développe de façon plus profonde. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait que le cerveau sonne la cloche d'alarme, là, que tu ressens tout d'un coup justement ces papillons-là, puis cette espèce de cœur-là qui bat plus fort.
Bien, notre cerveau est vraiment équipé pour répondre au stress. Ça, c'est l'évolution. Donc, toutes les espèces ont une réponse au stress. Nous, on étudie beaucoup la souris, par exemple, puis c'est les mêmes régions du cerveau que chez l'humain, que chez les primates, qui vont réagir au stress. Donc, c'est sûr que les neurones vont jouer un grand rôle. Ils vont permettre la relâche d'hormones, les hormones du stress, qui vont permettre aux autres organes, justement, le cœur va battre plus vite, on va relâcher de l'adrénaline, donc on va réagir au stress. Mais nous, on s'intéresse à d'autres systèmes. Donc, on a commencé à voir le stress en dehors de la boîte noire, là, qui est le cerveau. Puis on s'intéresse beaucoup au système immunitaire, même le microbiome, là, les bactéries qu'on a dans notre intestin, puis beaucoup la barrière du cerveau aussi qui protège là, contre l'inflammation.
C'est vrai que c'est le deuxième cerveau,
le
microbiome. On entend souvent ça. Ouais. Je dis ça à Yann depuis deux semaines. Je suis à moitié sûre de ce que je dis. Là. J'y vais bien confiance.
Tu fais juste répéter ce que tu entends.
Ben, j'ai l'air intelligente dans ce temps-là. C'est ça qu'on fait à Radio à Québec. Là. C'est pas nouveau. Là.
Mais le microbiome, c'est super intéressant. Moi, quand j'étais étudiante, personne ne parlait de ça. Puis de plus en plus, on s'y intéresse. Il y a vraiment de la recherche qui a été faite à plein de niveaux, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, mais aussi le stress. Donc, quand on est stressé, les petites bactéries qui sont dans notre intestin, les populations vont changer. On va avoir des populations qui vont relâcher plus d'inflammation, puis ça va avoir un impact sur notre humeur aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'on se dit, comme nous, on étudie par exemple l'exercice physique, on donne des roues d'exercice à nos souris pour voir si ça promouvoit la résilience, la santé vasculaire, et une diète, par exemple, parce qu'on pourrait jouer avec la diète pour faire de la prévention là, pour l'anxiété et les troubles de l'humeur.
Quand on regarde moi, je regarde souvent des documentaires là, impliquant des animaux, je tripe là-dessus, puis quand je fais du ménage chez nous, ben, je mets ça à télé, puis j'en apprends peut-être un peu plus. Puis, tu sais, on dit que le stress, bon, autant autant dans le monde animal que chez les humains, il existe. Chez les animaux, il semble plus constant parce que ça dépend de leur survie. Par exemple, on a, je sais pas moi, ce qui s'apparente à être des chevreuils en Afrique, c'est pas des chevreuils, là, il y a un autre nom pour ça, mais ils sont constamment en mode alerte à regarder s'il y a pas des prédateurs qui s'en viennent pour leur sauter dessus. Puis pourtant, eux, ils semblent pas mourir du cancer. Là. Puis chez les humains, on dit... Le stress, là, on dirait que ça peut t'amener au cancer. C'est-tu vrai?
Bien, en fait, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est aussi l'évolution, le stress, comment ça a changé. Donc, le monde dans lequel on vit est extrêmement différent de v'là 100 ans. Ouais. On vit dans des conditions où maintenant on a des antibiotiques, on vit plus vieux. On a aussi un système de santé qui nous permet de vivre plus vieux, mais notre biologie n'a peut-être pas évolué aussi vite. Donc, on pense qu'il y a un aspect évolutif au stress que, par exemple, quand on est pris dans le trafic, notre système veut combattre ce stress-là, puis il va activer plein de systèmes, alors que ce n'est pas une situation aussi critique que l'antilope qui se fait courir par un lion en Afrique.
Non, c'est ça.
Mais le cerveau de l'antilope, c'est le même cerveau un peu que nous autres, il réagit de la même façon.
Oui. Est-ce que, c'est parce que sa vie en dépend constamment. Nous autres, notre vie n'est pas si en danger que ça. Là. Fait que peut-être qu'il y a le stress qu'on avait à l'époque de on va-tu manquer de nourriture, on va-tu manquer la température, est-ce qu'elle est adéquate parce qu'on n'avait pas les radars qui faisaient le travail pour nous dire voici demain quel genre de température tu vas avoir. Les habitations aussi se sont beaucoup améliorées, fait que tu pars plus au vent. Tu sais, il y a des choses qui ont progressé chez l'être humain, puis les animaux sont toujours restés comme à la base, c'est-à-dire le stress, c'est une fonction qui leur permet de rester en vie face aux prédateurs. Nous autres, on a bifurqué sur d'autres choses. Est-ce que vous avez étudié, je dis vous, mais toi et ton équipe, Caroline, est-ce que vous avez étudié les différents pays? Pourquoi il y a des endroits où les gens ne semblent pas être stressés du tout? Puis en Occident, nous autres, c'est le stress à côté, avec des médicaments à côté, avec des dépressions à côté. C'est sûr que tu n'as pas grand espoir quand tu es assis sur une roche tout au long de ta journée puis tu attends de voir s'il y a quelque chose qui va arriver. Là. Mais pour nous autres, c'est-tu le fait qu'on soit tellement dans le confort qu'on a comme développé ces problématiques-là?
Bien, il y a plein de réponses à cette question-là. D'abord, la prévalence, l'incidence, le taux de dépression là, partout dans le monde, c'est à peu près la même chose. Sur une année, c'est 5 à 7 % des gens qui vont avoir un diagnostic de dépression majeure.
Fait que c'est donc, pas l'Occident qui
trône au sommet. C'est pas seulement l'Occident.
Ah, ouais.
Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas rapporter les mêmes symptômes. Aussi, même quand on parle d'un enfant qui est stressé, il va dire « j'ai mal au ventre », alors qu'un adulte va dire « je me sens stressé », il va exprimer mieux, alors qu'une personne âgée peut dire « j'ai des problèmes de mémoire ». Donc, le stress va s'exprimer différemment de l'âge, mais aussi des populations. Au niveau des populations asiatiques, vont aussi plus parler des problèmes de mémoire. L'autre chose, c'est qu'on est plus sensibilisé aussi au stress. Il y a plus de gens qui en parlent. Une des choses qui nous intéresse beaucoup en nous, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Il y a deux fois plus de femmes qui ont un diagnostic de dépression majeure. Mais une question, c'est est-ce que les femmes vont chercher plus d'aide?
Donc, c'est parce qu'on endure les hommes. Hein, c'est difficile.
C'est à cause de nous autres.
Ouais, c'est tout le temps à cause de nous autres. Moi, mon stress général, c'est parce que je travaille avec toi, je travaille avec Denis, je suis épuisée. C'est une statistique qui fait du sens, ça, Caroline.
Elle, son stress, c'est le fait qu'on n'est pas assez stressé. Fait qu'elle stresse encore plus pour nous autres. Elle essaie de compenser.
C'est vrai.
Mais c'est super différent. Le stress, les hommes, souvent, ce qui va les mener à la dépression, c'est un événement majeur, comme une perte d'emploi ou un divorce.
Ouais.
Les femmes, c'est l'accumulation des stress de la vie tous les jours. Donc,
avoir des petits stress tout le temps.
Peut-être aussi, on accumule des petits stress avec les obligations de travail, famille, tout ça qui s'accumule. Là. Fait que c'est différent la manière qu'on le vit.
Yann, tu parlais de partout dans le monde, tu sais, puis je me demande si le stress joue sur l'espérance de vie.
Oui, c'est une bonne question. En fait, le stress aigu, il y a des espèces animales que ça les fait vivre plus vieux. Donc, c'est vraiment le côté chronique qui est important. Là, que quand ça devient trop incontrôlable, trop long, qu'on perd ça devient trop imprévisible, c'est là qu'il faut faire attention pour que ça devienne négatif. Mais aigu, ça peut être bon. Parce que quand on pense, par exemple, une histoire, on se perd en voyage, on est super stressé sur le coup, mais c'est la bonne histoire qu'on raconte. Puis le stress, ça nous aide aussi à se dépasser. Y a des gens qui vont faire des courses, des Ironman, ou qui vont escalader une montagne, ils vont vivre du stress, mais après ça, ils vont se dépasser, ils vont être fiers d'eux autres.
Il y en a qui chassent ça, en fait, cette espèce de petite adrénaline-là dedans. Puis moi, j'entends souvent dire le jour où je serai plus stressée, mettons, dans mon emploi ou dans ma passion, c'est parce que ça sera plus pour moi quelque chose à poursuivre. Il y en a qui ont besoin de ça et qui carburent à ça.
Ça aide à se dépasser. Ouais.
Fait que le stress peut avoir une incidence sur ta qualité de vie puis pour ton espérance de vie.
Oui. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont des conditions, par exemple, qui ont de l'inflammation, ça peut être de l'obésité, un cancer, c'est un bon exemple. Même les maladies cardiovasculaires, c'est des gens qui vont avoir plus tendance à développer une dépression. Et à l'inverse, les gens qui ont une dépression vont plus développer ces maladies-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre la biologie entre les deux, parce qu'on pense pas que c'est aussi simple que, par exemple, j'ai fait un accident cérébrovasculaire, j'ai perdu un peu de fonction motrice, je deviens déprimé, c'est à cause de ça. On pense qu'il y a de la biologie en arrière.
Fait que profite du temps qui te reste, Audrey.
Oui, c'est ça que je suis en train de me dire. Là, je m'évalue, là. Comment on explique la différence entre les gens donc, qui développent l'anxiété puis les symptômes dépressifs, puis ceux qui ont cette fameuse grande résilience-là, dis-je mal?
Oui. Bien, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce qu'on a observé, c'est qu'on utilise un modèle animal de stress social. On fait de l'intimidation sociale chez la souris. On a observé que les souris qui deviennent déprimées, c'est à peu près 2/3, vont avoir une fragilité au niveau de la barrière qui protège le cerveau. Puis quand on est stressé de façon chronique sur une longue période, notre corps réagit, on a plus d'inflammation qui circule, puis cette inflammation-là va passer par les petits trous de la barrière puis rentrer au niveau du cerveau. Fait que nous, ça, c'est un des travaux que j'ai fait quand j'étais à New York, là, avant d'arriver ici à Québec. Puis quand on est arrivé à Québec, une question qu'on s'est demandé, mais c'est celles qui sont résilientes, c'est quoi qui se passe? C'est quoi la différence? Comment ils résistent? Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un système qui est activé, le système des endocannabinoïdes, chez ces souris-là qui sont résilientes.
Ça, c'est quoi en français, mettons, là?
C'est en français. C'est le système des cannabinoïdes. Donc, c'est le même système pour ceux qui consomment ou qui connaissent le cannabis. C'est le même système sur lequel la plante, les ingrédients actifs vont agir.
Ah, oui.
Mais c'est le système de cannabinoïdes à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit endocannabinoïdes. Parce que ce système-là va être activé, par exemple, par l'exercice physique ou encore la douleur.
Pourquoi on fait les tests sur les souris, principalement?
C'est surtout parce que l'expérience humaine est très complexe. Alors que l'expérience d'un animal qu'on achète en laboratoire vont avoir la même diète, vont vivre dans le même environnement, vont avoir les mêmes conditions là, au niveau d'avoir une cage, un jouet, des amis, toutes ces choses-là. Alors que l'expérience humaine est hyper complexe. Il y a des gens qui vont vivre beaucoup d'adversité en bas âge. Il y a des gens qui vont vivre du stress à l'adolescence avec de l'intimidation. Donc, quand on accumule toutes ces différences-là, c'est quand on regarde les échantillons humains, nous, on travaille à la fois chez des souris, chez des échantillons dans des pétris, là, dans de la culture, là, des cellules, mais aussi sur des cerveaux humains. On a accès à des cerveaux humains pour vérifier ce qu'on trouve chez la souris, chez l'humain aussi.
Ah oui? Mais comment vous faites ça chez les cerveaux humains?
On a des banques de cerveaux. On a une ici à Québec.
Banques de cerveaux?
Oui. Il y a des gens qui généreusement font don de leur cerveau. Nous, on travaille beaucoup aussi avec l'hôpital Douglas à Montréal. Ils ont des gens qui sont suicidés. Puis ces gens-là, eux-mêmes ont donné leur consentement pour donner leur cerveau à la science ou la famille a choisi de le donner pour la recherche.
Attends une minute. Fait que là, t'as comme plein de cerveaux que vous gardez vivants, mettons.
Non,
vous...
pas vivants, mais qu'on garde conservés. Ouais.
C'est ça, conservé actif, ouais. Là, pas nécrosé, mettons. Là.
Oui, fait que si on voit, par exemple, la barrière est plus fragile chez la souris, on peut faire du défrichage, trouver des nouveaux mécanismes chez la souris. Puis après ça, on vérifie avec nos collaborateurs là, dans les cerveaux humains. On a accès à du sang aussi, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des biomarqueurs. Faut savoir qu'une des questions aussi, pourquoi c'est dur de diagnostiquer la dépression, c'est qu'on fait encore ça en 2025 avec des questionnaires. On n'a pas de biomarqueurs comme pour le cancer, les maladies cardiaques. On utilise des questionnaires. Puis si je vous demande à 1 sur 10 comment vous vous sentez aujourd'hui...
Moi, je t'aboute.
Si vous avez de la détresse psychologique, exactement.
Tout ça.
Je trouve que la comparaison, c'est comme de la douleur. Tu sais, un déchet de douleur, 8 ou 9 pour toi, ça peut être très différent pour moi.
Oui, puis c'est spécial parce que tu vois, en consultation, moi, je l'ai déjà fait, cette espèce de petit questionnaire-là.
Ouais.
Puis on m'avait dit que j'étais dépressive, m'a dit que je me sentais loin d'être dépressive. Là. Fait que c'était peut-être juste la journée. Je devais être genre dans mon mauvais cycle, là, t'sais, au mauvais endroit dans mon cycle menstruel. Puis on m'avait dit que non, moi, je filais vraiment pas. Mais c'est ça, c'est que c'est des affaires d'échelle sur 10. Fait que c'est vraiment dur d'en venir à une conclusion.
Mais
là,
le jour où on mettra la main sur ce 10 marqueur-là, ben là, ça pourra pas mentir.
Bien, puis ça va aussi aider à choisir les traitements parce qu'on a tendance à faire du essai-erreur pour les traitements.
Ouais.
Des fois, les gens, ça va prendre 6-8 semaines avant qu'ils voient des effets positifs. Puis quand ça va pas, t'as pas le temps d'attendre 6-8 semaines. T'en essaies 2, t'en essaies 3. Puis à peu près encore 30 à 50 % des gens qui sont peu ou pas aidés avec les traitements qu'on a actuellement. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de penser à l'extérieur de la boîte du cerveau puis d'étudier d'autres systèmes pour mieux comprendre.
Puis là, il y a eu une découverte de protéines clés dans la résilience face au stress. Là, c'est une question de niaiseuse, mais moi, quand on parle de protéines, j'ai un morceau de viande en tête. Là. J'ai vraiment... c'est ça pour moi, des protéines.
Oui.
Là. Non, mais c'est vrai pareil.
Ouais.
Fait que c'est quoi cette protéine-là clé qui nous amènerait à être plus résilient face
moi,
au stress?
Moi, je la vois chez Popeye, sur l'étagère.
Ouais, mais là, j'ai essayé d'être plus accessible, là, tu comprends, dans le quotidien.
Mais c'est qu'en fait, nos gènes, quand ils vont être exprimés, ils vont produire des protéines. Puis par exemple, le cannabinoïde, le récepteur, de la manière que ça fonctionne, c'est que sur la cellule, nous, on s'intéressait à des cellules en petite forme d'étoiles, des astrocytes, c'est pour ça qu'on les appelle astrocytes, qui font partie de la barrière. Puis ces cellules-là vont exprimer des récepteurs, donc on va avoir un petit capteur sur la surface de la cellule. Puis s'il y a des molécules qui circulent dans le sang, comme par exemple du cannabis, du THC, ça va se lier à ce récepteur-là. Fait que la protéine, c'est vraiment le récepteur qui est sur la surface de la cellule.
OK, fait qu'on peut pas consommer ça, mettons, mettons, dans notre nourriture au quotidien, on ne peut pas ajouter ça à notre quotidien.
Non, notre système en produit naturellement, là, vraiment beaucoup. Okay. Puis nous, ce qui est intéressant qu'on a observé, c'est que les souris résilientes avaient plus de ces récepteurs-là sur ces cellules-là en forme d'étoiles qui font partie de la barrière. Puis c'était plus que les souris susceptibles au stress qui développent de la dépression, mais aussi plus que les contrôles non stressés. Fait que c'est vraiment une adaptation positive pour faire face au stress. C'est pas seulement versus les
cette dépressifs. Étude-là, en fait, elle pourrait vous mener quoi? À faire une nouvelle médication?
C'est ce qu'on vise, en fait. Puis aussi d'essayer de trouver des biomarqueurs, là, comme j'ai mentionné, là, pour faciliter le diagnostic, le choix de traitement. On est en discussion avec des collaborateurs. Nous, on collabore avec des gens en Europe, des gens aux États-Unis, des gens aussi en Asie, pour essayer de trouver des molécules qui pourraient être spécifiques pour ces récepteurs-là. Parce qu'il faut savoir que quand on fume, par exemple, du cannabis, on active les récepteurs sur ces cellules-là en forme d'étoile, mais aussi sur les neurones. Puis là, on peut avoir des effets secondaires, comme par exemple l'anxiété, des changements au niveau de l'appétit, des choses comme ça.
Plein de questions pertinentes par texto au 88-971-101. Je vous rappelle qu'on est avec Caroline Ménard, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Est-ce que le stress, c'est héréditaire?
Ah, c'est bon, ça, comme question. En fait, l'environnement a vraiment un gros impact. Des fois, on dit la dépression, c'est dans la famille. C'est pas vrai. C'est parce qu'on a souvent grandi dans la même condition socio-économique. Donc, peut-être l'insécurité. Oui, fait qu'on n'est pas destiné à devenir déprimé si dans notre famille, il y en a beaucoup. Mais peut-être qu'on a vécu de l'adversité en bas âge, des défis, des traumas. Et il faut faire attention un peu plus à ce moment-là. Mais on n'est pas destiné à devenir déprimé. C'est pas génétique.
Fait que c'est plus qu'on répète des comportements qu'on a peut-être vus chez notre parent que le fait que. Parce que j'ai tellement entendu ça souvent, là. Ouais, mais là, moi, mon père, mon arrière-grand-père, tout le monde était dépressif dans la famille, fait que moi aussi, là, je fais le pas facilement, puis je me disais, mon Dieu.
Mais c'est souvent aussi, si par exemple, on a grandi avec de l'insécurité alimentaire, on a grandi dans des conditions économiques plus difficiles, donc à ce moment-là, c'est sûr que ça, peut-être que notre biologie va être un peu différente, mais il faut savoir que notre cerveau s'adapte hyper bien, tout comme les autres systèmes. C'est très plastique, donc il y a des choses à faire pour ramener ça, là, d'un côté plus positif. Par contre, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, là, quand ça va pas. Faut pas juste essayer de s'en sortir tout seul avec, par exemple, l'exercice physique, la diète. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide quand ça ne va pas.
L'être humain agit par mimétisme aussi. Là, si tu as vu ta mère constamment stressée, puis ta mère, c'est un modèle, que tu le veuilles ou pas, ta mère, c'est ton premier modèle, ou ton père, c'est ton premier modèle. Si tu l'as vu tout le temps stressé, tu agis par mimétisme. Là. Ouais. Tu grandis avec le stress que ta mère a, puis elle le transfère sur toi probablement, puis c'est contre son gré, bien entendu.
Oui, puis c'est pour ça que c'est important beaucoup de parler de santé mentale, parce qu'on se rend compte aussi que quand on parle avec les autres, chacun des stratégies pour faire face à l'adversité. Puis au stress. Il y a aussi, on se rend compte en parlant que parfois, des gens qu'on côtoie tous les jours vont prendre une médication, mais personne n'en parle tant que ça. Donc, en parlant, on enlève le stigma, puis on se trouve des meilleures stratégies aussi, comme, non seulement comme humain, mais comme société, comme, comme communauté.
J'ai envie de te poser la question, juste parce que ça sort beaucoup sur le Twitch, entre autres. Il y a des gens qui disent, hey, mon Dieu, mon médecin m'a dit pourtant que c'était héréditaire. Comment vous avez découvert que ce ne l'était pas? Y a-t-il quelque chose qui prouve en fait que ce ne l'est pas? Parce que c'est vrai que des professionnels de la santé qui passent ce message-là, en fait.
Oui, bien, en fait, c'est qu'on n'a pas un gène pour la dépression. Comme il y a des gènes, par exemple, pour le cancer du sein, qu'on sait que si on l'a, on a un pourcentage de plus de chances de développer le cancer du sein. Ça, ça n'existe pas pour la dépression. Ça peut être une accumulation de petits changements au niveau des gènes, mais on n'a pas un gène de la dépression là, qui prédestine. Fait qu'on, nous, on pense que c'est peut-être quasiment deux tiers de l'environnement là, qui vont contribuer. Puis c'est sûr que oui, on peut être un peu plus vulnérable, mais on n'est vraiment pas destiné. C'est ça le message que je veux que les gens retiennent.
Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il y a des moments peut-être un peu plus stressants de nos vies, on a le goût, en arrivant à la maison, de se couler un bon verre de vin.
Ouais.
De prendre un bon bain. De prendre de la Coors Light. Il y en a d'autres qui vont dire, là, moi, il faut que j'aille courir, puis ils vont faire un 42 km, puis ils vont venir à la maison, puis ils vont avoir diminué leur stress, mais le lendemain, ils vont souffrir le martyre.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gère notre stress de cette façon-là? Est-ce qu'on l'a toujours fait depuis que l'humain est humain? À chaque fois qu'il y avait des périodes stressantes, il essayait de compenser par d'autres choses?
Oui, c'est une question que je me fais souvent poser. C'est quoi la recette de la résilience? Puis je pense que chacun a un peu sa recette personnelle. Ça dépend c'est quoi les activités que vous aimez faire. Une de mes collègues, Sonia Lupien, qui est à l'Université de Montréal, a dit des fois, ça prend juste un 15 minutes qu'on se donne à soi-même. Ça peut être un long bain, aller faire un jogging. Moi, personnellement, ma recette, c'est j'ai commencé à faire du sport plus depuis que j'étais à Québec. À New York, c'était difficile de sortir de l'île. Je fais du vélo de montagne l'été. J'ai commencé l'été passé, du ski de fond l'hiver. J'aime ça aussi jouer à des jeux vidéo. En ce moment, je joue à Sea of Stars, qui a été fait ici à Québec.
Oui.
Ils ont même une version québécoise qu'on a commencé. Ah, c'est fabuleux. Avoir des points de vie, de la poutine puis du pudding chômeur, ça fait ma soirée.
Génial.
Puis aussi la musique. Nous, on aime beaucoup aller voir des shows live. On va à l'Anti à peu près à tous les mois voir la musique puis se défouler. bouger dans un mosh pit, là, ça fait du bien fait aussi.
Vous gérez votre stress de cette façon-là. Mais l'humain a toujours fait ça.
Je pense que oui. Puis aussi, toutes les relations sociales, ça joue beaucoup aussi sur comment on gère le stress. Je pense de se retrouver autour d'un feu à l'époque, peut-être, ou ramasser des fruits ensemble. Ça a toujours été dans la nature humaine, je pense, les relations sociales. On voit que les gens qui ont beaucoup de relations sociales, qui parlent, qui partagent, vont souvent être des gens qui vont avoir un niveau de stress qui peut être élevé, mais ils vont bien le gérer.
Au niveau de la cognition aussi, moi, j'ai côtoyé les personnes âgées pendant la pandémie.
Ouais.
Puis, à un moment donné, on les interdisait de sortir de leur logement, tout simplement. Ils devaient rester constamment dans leur logement. Fait que moi, je leur avais jasé la semaine 1, exemple. Puis là, je leur voyais comme un mois ou, mettons, 6 semaines plus tard. Puis je voyais une différence entre la personne qui s'était présentée devant moi puis la personne qui avait été isolée pendant 6 semaines. Au niveau cognitif, là, ce n'était plus la même personne.
Oui, puis ça, on le voit nous-mêmes chez les souris. Tu mets une souris en isolement pendant seulement quelques jours puis on voit des changements au niveau de la biologie. Ça a un impact majeur. Puis ça peut, oui, se renverser, mais ça reste quand même que ça a des impacts.
Tu parles des souris. Il y a quelqu'un qui nous dit, salut Martin au 971-101, qui dit comment on intimide des souris. Puis j'ai envie de poser la question plus large, en fait. Peux-tu nous expliquer le processus par lequel vous êtes passé avec les souris pour en arriver finalement à vos conclusions de recherche?
Oui, on utilise une souris bully. C'est aussi simple que ça. Donc, on utilise une souris qui est un petit peu plus costaude, un petit peu plus dominante. Ils vont avoir une interaction physique seulement 5 minutes dans la journée, mais ensuite, on les garde dans la même cage, une plus grande cage comme pour hamster. Puis on met un séparateur en plastique, en plexiglas transparent avec des trous. Fait qu'ils peuvent se voir. C'est vraiment comme dans une cour d'école. Si tu vois le bully au loin, puis c'est imprévisible parce qu'on ne sait pas quand il va venir pour t'agresser ou t'intimider. Puis les souris vont s'envoyer des signaux, ils vont faire des yeux un peu méchants, ils vont battre la queue. Donc, ils vont s'envoyer des signaux d'intimidation. Puis on voit les souris qui sont plus dominées, ils vont se mettre en petite boule. Donc, on fait ça juste 10 jours. Donc, c'est un stress qui est un stress physique pendant seulement 5 minutes suivi d'un stress qu'on dit sensoriel, qui est comme psychologique, pendant le reste, parce qu'on voit l'intimidateur à l'autre bout. Puis à tous les jours, il y a un nouvel intimidateur. Donc, la souris change de cage à tous les jours. Puis après 10 jours, ben c'est ça. On va avoir à peu près 50 % à 2 tiers des souris qui vont s'isoler socialement. Si on leur donne le choix d'avoir de l'eau sucrée ou de l'eau normale, ils ne prendront plus l'eau sucrée. Donc, ils n'ont plus de plaisir à prendre de l'eau sucrée. Puis, on a des souris qui, elles, vont avoir des comportements tout à fait normaux.
Audrey, on est en train de perdre. Tu sais, il aurait pu faire pire, là. Il aurait pu mettre une moumoute à souris, une moumoute avec les cheveux jaunes puis le teint orange.
Non, mais là...
Avec un drapeau des États-Unis sur sa maison.
Oui, mais moi, j'avais des rats et des hamsters quand j'étais jeune, comme animal de compagnie. Je suis comme, est-ce que ces souris-là, vous les réutilisez pour d'autres tests après ou un coup qui ont comme passé à travers un certain stress, ou, peu importe les études que vous faites, sont comme plus page blanche puis il faut changer de batch?
Bien, souvent, ce qu'on va faire tout de suite après, c'est qu'on va collecter plein de tissus. Donc, puis on maximise parce que nous, on le sait, c'est un privilège là, de travailler avec des vies, même si c'est des souris. Donc, j'ai plusieurs étudiants qui vont travailler sur plusieurs projets avec une même souris. Il y en a qui travaillent sur le microbiome, donc on collecte l'intestin. Il y en a qui travaillent sur le sang. Il y en a qui travaillent sur le cerveau. Ouais. Fait qu'on maximise vraiment l'utilisation.
Vous faites quoi après avec?
On collecte le cerveau, on fait des petites tranches de cerveau, on les regarde sous le microscope.
Break. La souris est plus vivante après.
Oui, non. Non,
parce que
rendu là, non.
Si t'enlèves le cerveau, l'estomac...
Non, non, mais ça, je m'en doute, là. J'allais demander comment, mais je pense que je vais pas savoir.
Mais en fait, pour te rassurer, on fait aussi des choses positives. On lui donne, par exemple, une roue d'exercice. Ça, il adore ça. Je sais pas si vous voulez essayer d'estimer combien une souris ça court dans une nuit. Puis je parle d'une petite souris de 25 grammes, là, une petite affaire. Là. Combien c'est en kilomètres?
Ça doit faire un genre de 10 kilomètres.
Moi, j'ai arrêté vers du 15-20.
Hey, vous êtes bon parce que moi, tout le monde me dit tout le temps 2-3, mais non, 8 à 10 km par nuit.
8 à 10?
Ouais, fait honte à nous qui avons de la misère à sortir de notre confort.
Non, c'est ça. Hey, t'as glissé que t'étais à New York avant d'arriver à Québec. Moi, ça a été les 6 plus beaux mois de ma vie là, que j'ai passé à New York. J'ai adoré, mais j'étais content de revenir à Québec parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça allait beaucoup, beaucoup trop vite à New York. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, toi?
J'ai fait un postdoc. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, donc je suis partie de la maison tôt pour aller à l'université à Trois-Rivières, à l'UQTR, baccalauréat, doctorat en biophysique. J'ai fait mon premier postdoc à McGill avec Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef là, du Québec maintenant. Puis je suis allée, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis allée en industrie, en travaillant en biotech pendant un certain temps. Okay. Puis je suis revenue, puis j'ai fait un dernier postdoc à New York pendant 3 ans.
Ça change une vie, ça, là, le New York, là?
Oui, bien, pour être honnête, plus ça allait à partir du Lac-Saint-Jean, plus ça allait, plus ça grossissait. Puis là, on se disait Québec, on va tout s'ennuyer, les buildings, tout ça. Mais on aime beaucoup la balance travail-vie personnelle à Québec versus à New York, c'était vraiment pas la même dynamique.
Bien, c'est une ville qui ne dort pas.
Oui.
Tu sais, moi, j'y étais au début des années 2000, ouais, puis c'est une ville qui ne dort pas du tout. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis nous, on était à peu près une quinzaine dans un appartement. Là. Fait que rester à l'appartement, tu faisais pas ça. Fait que tu étais tout le temps à l'extérieur.
Oui, c'est pareil pour nous.
Tu travaillais, puis tu allais à l'extérieur.
C'est autre pareil.
Ouais. Hein. Puis là-bas, est-ce que vous étiez carrément tout le temps à l'université?
Bien, je travaillais dans un hôpital. Donc, je restais l'autre côté de la rue de l'hôpital parce que c'est super dispendieux de rester à New York. Puis je restais dans l'Upper East Side, fait que un des quartiers les plus huppés, là, à deux coins de rue de Central Park. Un des hôpitaux, c'est le meilleur département de neurosciences, là, de recherche sur le cerveau aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé énormément. J'ai beaucoup fait le party aussi. On a profité quand même de notre vie à New York. Ça a été trois belles années. On a même eu, quand j'étais étudiante graduée, l'opportunité d'aller à Los Angeles pendant trois mois avec mon chum. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On est parti en auto de Trois-Rivières, puis on est parti en road trip. Puis là, moi, je dis à mes étudiants, dans le temps, on n'avait pas Google Maps. Là, j'ai parti avec un atlas, avec un crayon marqueur.
Oh,
là.
C'est hot.
Ouais, j'ai l'air d'un dinosaure.
Il fait-tu la même chose que toi? Es-tu dans le même domaine?
En informatique, ou... en santé. Ouais,
OK. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Hein.
Puis est-ce que tu avais des bourses pour New York? Parce que, je veux dire, c'est quand même assez cher. Hein?
Oui, bien, en fait, moi, j'ai eu des bourses presque tout mon parcours universitaire, à part quand j'étais au baccalauréat, à la maîtrise. Mais ensuite, j'étais aussi supportée là, financièrement par mon directeur de recherche là-bas. Ouais.
À New York, est-ce que vous aviez un appart seul ou vous étiez...
Bien, nous, le Icahn School of Medicine à Mount Sinai, l'hôpital avait leur résidence, si on veut, pour les gens qui travaillent là. Fait qu'on payait la moitié du coût d'un appartement si on avait été par nous-mêmes.
Oui, la moitié, c'est à peu près 25 000 par mois.
Oui, c'est ça, c'est juste ça. Là.
C'est pas loin de ça. Mettons qu'on mangeait les petits food trucks là, en bas, là, on mangeait souvent là.
Mais comment t'en es venu à avoir l'intérêt de... Parce que là, en passant, on parle avec Caroline Ménard, là, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui est aussi chercheuse au Centre de recherche cerveau. Mais comment t'en viens à dire qu'un jour, tu vas faire ça? Parce que, mettons, moi, je regarde quand j'étais ado les possibilités, là, j'étais plus dans les affaires claires, là, ambulancière, t'sais, vétérinaire, on est tous passés par là. Et il me semble que, dans ma vie, j'aurais pas eu le réflexe de dire, moi, je vais devenir grande chercheuse sur le stress pour... T'sais, c'est gros quand même, là.
Ouais, ben moi, je suis universitaire première génération, là. Mes parents sont pas allés à l'université. Puis quand je suis arrivée, j'aimais la science, donc quand j'étais jeune, j'étais club des débrouillards, toutes ces choses-là. Quand je suis arrivée à l'université, biophysique, que je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas faire médecine, mais j'aimais la chimie, j'aimais la biologie, j'aimais la physique, les mathématiques. Donc, quand je suis arrivée à mon premier cours introduction en biophysique, j'ai vu un professeur d'université qui faisait de la recherche. Puis pour moi, ça a été comme une épiphanie. Là. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air le fun. Tu voyages, tu formes la prochaine génération de chercheurs. Les journées sont toujours différentes. C'est hyper stimulant intellectuellement parce que la recherche, ça évolue rapidement. C'est toujours nouveau.
Mais tu fais quoi concrètement? C'est une drôle de question. Là. Mais moi, tu me dis recherche, puis j'ai l'impression que tu es sur Google. Là, puis c'est quoi exactement?
Ben, moi, j'ai fait de la recherche quand j'étais à McGill où je faisais nager des rats dans une piscine. Donc, j'étudiais la mémoire spatiale. Fait que ma mère disait que j'étais un lifeguard pour les rats parce que je les surveillais dans la piscine.
Wow.
Mais maintenant, ce que je dis, c'est que ben, je suis cheerleader pour les recherches de mes étudiants. Donc, c'est les étudiants qui, au jour le jour, font les expériences dans le labo avec les pipettes, les souris, tout ça. Puis, ben, j'essaie de trouver du financement. C'est ça que je fais beaucoup. Et je vends les projets de mes étudiants. Je voyage, puis je travaille. Je dirais pas de temps, mais je voyage énormément. Donc, je voyage, j'ai mon 50K aéroplan là, facile à chaque année. Là.
Ah, c'est très cool, ça. Puis le Centre de recherche cerveau,
oui.
Pourquoi on a créé ce centre de recherche-là spécifiquement?
Oui, faut savoir que le Centre de recherche cerveau, c'est une centaine d'équipes. On est 500-600 avec les étudiants, les professionnels de recherche, puis on est un des meilleurs centres de recherche en santé mentale au Canada. On développe des outils, des microscopes, des technologies. On a beaucoup d'étudiants qui finissent dans l'industrie, dans différentes compagnies ici à Québec, et aussi qu'on vend là, partout à travers le monde. Donc, on a une expertise en neurosciences, particulièrement la recherche sur le cerveau au Canada. On est reconnu, là, on collabore beaucoup avec Européens, Américains et aussi Lab Asiatique. Moi, mon laboratoire, j'ai un tiers d'étudiants européens, un tiers d'Amérique du Sud, puis un tiers canadien d'étudiants locaux.
Ah oui?
Ouais.
Puis vous expliquez ça comment?
Bien, il y a beaucoup de gens qui viennent à Québec pour la recherche en santé mentale, mais aussi pour la recherche sur le cerveau en général. On a vraiment une bonne expertise. Puis aussi, bien, moi, j'ai des étudiants qui viennent de plein d'horizons différents. Donc, ça va de médecine, psychologie, jusqu'à ingénierie, microbiologie, neurosciences, sciences biomédicales. Tout le monde arrive avec son bagage. Le projet qu'on a discuté aujourd'hui là, sur les endocannabinoïdes, c'est ma première étudiante au doctorat, Katarzyna, qui est polonaise, qui avait fait une maîtrise à Helsinki, en Finlande, sur la douleur et les endocannabinoïdes. Puis elle a voulu combiner son expertise avec la mienne, qui était sur le stress, la barrière et le système immunitaire. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Donc, moi, je trouve ça super stimulant d'avoir des jeunes qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, puis qui viennent apporter leur expertise ici à Québec.
Ouais. Nous autres, on fait de la radio, dans le fond.
On vous aime pareil.
On divertit les gens. On divertit les gens.
Oui, c'est ça, nous autres, c'est ça qu'on fait.
Dans le fond, Caroline, t'es une bolée.
Ouais, c'est un peu ça.
Ben, non, j'ai pas tout le temps eu les meilleures notes, non. Mais j'ai travaillé fort. Puis moi, c'est une des choses que je dis des fois, avoir tout le temps des A+, c'est pas les meilleurs, forcément, les meilleurs étudiants. Les gens qui ont travaillé, parce que la recherche, c'est pas facile. C'est des montagnes russes. Mm. Là. On a des O-O, mais on a des bas-bas. C'est comme ça, l'article, c'est un O-O, mais se faire dire non pour une grosse subvention, se faire dire par les évaluateurs que ton projet est pas super intéressant, c'est un bas. Je ramasse des fois les étudiants à petite cuillère.
Mais t'es une passionnée, puis ça se voit.
Ouais, ça oui, ça oui.
Moi, j'ai une dernière question concernant le sujet principal qu'on abordait ce matin, qui était la découverte d'une protéine clé dans la résilience de l'humain face au stress. Souvent, quand on parle de médication pour l'anxiété, pour le stress, la dépression, on parle, veut pas, d'effets secondaires.
Ouais.
Et comment vous vous assurez à travers ce processus-là? J'imagine que c'est pas tout à fait que les souris que vous êtes capable de faire la liste des effets secondaires, là. Mais comment on s'assure de cette liste-là? C'est-tu aussitôt que quelqu'un dans un groupe, parce que j'imagine qu'il y a des tests sur humains après, quand c'est...
Ouais.
Est-ce que c'est aussitôt qu'il y a quelque chose qui je sais pas, moi, je fais partie du groupe test, j'ai mal au ventre un soir, il faut absolument que vous notiez ben, mal de ventre, ou il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui reviennent avec le même symptôme. Comment on s'assure d'avoir le moins d'effets secondaires possible?
Bien, il y a différentes étapes. Donc, d'abord, on fait les recherches chez la souris souvent, ou sur les cultures, les cellules en culture. Ensuite, on passe souvent aux primates, donc les primates non humains. Ensuite, on va passer chez des gens qui sont en santé, qui n'ont pas de dépression ou qui n'ont pas la condition là, qu'on essaie de traiter. Puis on va faire ça sur plusieurs milliers de personnes. Donc là, on peut vraiment documenter s'il y a des effets secondaires et on va tout noter, même si c'est une personne sur 10 000, on va le noter. Et ensuite, si c'est sécuritaire, on va passer chez les gens qui ont la condition. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes et beaucoup là, de procédures et c'est très, très bien encadré.
Puis à partir de combien d'années ou de nombre d'études on peut vraiment faire confiance à une médication?
Bien, ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite. Donc, il y a des... comme pour les médicaments pour la dépression, le problème qu'on a, c'est que c'est des molécules qui ont été découvertes dans le siècle précédent, dans les années 70-80. On utilise encore des médicaments qui fonctionnent sur les mêmes systèmes, mais on essaie de diminuer les effets secondaires. C'est ça qui a été fait beaucoup. Mais il y a avec les recherches, la collaboration internationale, on a vu que les vaccins pour la COVID, ça s'est fait en quelques années. Mmh. Donc, quand on se met tous ensemble, puis on partage les connaissances, donc pour nous, c'est une des raisons. On met toujours les articles, on paye un peu plus cher pour qu'ils soient en sciences ouvertes. Donc, tout le monde peut avoir accès. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers de dollars ou des centaines de dollars pour avoir accès. Fait qu'on avance la recherche plus vite.
All right. Hey, ça a été un moment super agréable avec toi, Caroline Ménard. Tu es professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche Cerveau. Vous avez découvert une protéine clé dans la résilience face au stress, puis en espérant que cette découverte-là puisse améliorer la qualité de vie des individus à travers la planète.
Merci beaucoup.
Un gros merci d'être passé. 11h06, on fait une courte pause et on vient.
Voici de bien bonnes raisons de vous procurer le Kix chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan en ce moment.
C'est une très belle discussion avec la chercheuse qui était avec nous en studio, Caroline Ménard, qui est professeure à la Faculté de médecine et chercheuse au Centre de recherche Cerveau. T'as capoté?
Ben, tu sais, des fois, là, quand on parle de science ou de recherche ou... C'est compliqué. Je lisais le communiqué, là. Il y avait plein de mots que je comprenais pas.
Des fois, c'est facile de décrocher.
Ben oui, tu sais, les CB1 de type 1, cannabinoïdes, je veux dire, tabarnouche qu'on n'est pas dans ce domaine-là.
Mais ça te prend des vulgarisateurs comme Caroline Ménard. Moi, j'ai Normand Voyer aussi que j'aime bien, qui est un bon vulgarisateur. Ces gens-là sont capables de nous faire aimer la science.
Oui.
Puis de nous apprendre des choses sans nécessairement qu'on soit obligé d'ouvrir le dictionnaire Larousse.
Oui, puis tu sais, on ne sait pas comment ça se prépare, ces études-là. Tu sais, on sait qu'ils utilisent des animaux, des mémoires, l'affaire qu'il y avait des cerveaux là, qui gardaient, puis j'ai aucune idée.
Ouais,
ben je trouve ça tellement intéressant.
Les médecins, quand ils font leur doctorat, là, ils travaillent sur des corps.
Oui, ça, je le savais.
Tu sais, en même temps, on pourrait même dire, tu sais, si vous voulez contribuer à la science ou vous voulez donner vos organes, c'est possible de le faire par l'entremise de votre carte d'assurance maladie.
As-tu signé le papier?
Oui, c'est fait à chaque année. Ben, pas à chaque année, mais à chaque fois, je reçois ma carte d'assurance maladie que je donne maintenant aux policiers.
Pourquoi tu donnes ta carte? Pourquoi tu la donnes aux policiers?
T'as pas remarqué ton permis de conduire versus ta carte d'assurance maladie?
Ils sont pareils. C'est vrai qu'ils sont faits sur le même frame.
Puis les policiers sont tout le temps à dire à ma femme, non, ça, c'est la carte d'assurance maladie.
Ouais, t'as raison, je comprends.
Moi, je t'habitue avec ma vieille carte solaire. Ma vieille carte soleil. J'étais un dinosaure, Maudrey. J'étais un dinosaure, puis j'avais une bonne vieille carte soleil.
Je l'avais aussi.
Avec mon nom inscrit dessus. Puis là, il y avait des montagnes, puis il y avait de l'ombrage, puis il y avait un lever ou un coucher de soleil. Je sais pas c'était quoi.
Puis là, petit rouge Bourgogne en arrière.
À cette heure, c'est la même photo que sur ton permis de conduire.
Oui.
Puis c'est la même couleur.
Oui, les mêmes textures.
Les flics se ramassent sur le bord de l'autoroute et te demandent ton permis de conduire. Puis là, toi, tu lui donnes ta carte d'assurance maladie. Il dit non, non, permis de conduire. C'est la même chose à ce qu'on me dit au centre de tri quand tu vas à l'urgence. Quand tu vas voir l'infirmière.
Ils donnent leur permis.
Ils donnent leur permis. Non, ça, c'est la carte d'assurance maladie.
Pas bonne affaire, monsieur.
mais qui a pensé à ça?
Bien, je pense que c'était de l'affaire plus texturée à la base puis plus complexe à cause des faux permis, des fausses cartes d'identité, entre autres. T'sais, on a tous déjà fait ça, jeunes, là, emprunter une carte d'identité pour sortir.
Non, pas moi.
Moi, j'avais un ami à l'époque qui faisait des fausses cartes. Fait que tu envoyais ton permis, puis lui faisait des fausses cartes. Et je te jure que c'était à s'y méprendre. Il y avait vraiment un marché pour ça.
Il était capable de le faire. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai eu des amis qui faisaient ça, certainement. Nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait à une porte. Si ça marchait pas, on restait à l'autre porte. Si ça marchait pas, on essayait de rentrer avec une grosse gang de monde. Ce qui faisait en sorte qu'on était capable de se couvrir comme on regardait à terre, on regardait pas le bouncer dans les yeux. Mais ça, là, tu sais, au Dagobert, là, qui était une discothèque très, très populaire dans
mais
le temps.
Maintenant, son bon, ça a changé.
V'là 20 ans, t'avais deux portes. T'avais la porte de côté, puis t'avais la porte en avant.
Ouais.
Puis quand tu te faisais prendre à la porte de côté parce que t'étais mineur, lui, il te calait dans le CB en disant petit Chris de petit brun aux yeux bleus, là, 150 livres, là, qui va s'essayer en face là, dans quelques minutes. Fait que là, t'attendais 10 minutes. Tu laissais rentrer du monde. Puis après ça, t'arrivais, tu regardais pas le bonheur dans les yeux, tu faisais comme si c'était un lundi, là.
Ah, mon
Dieu! Tu regardais bien droite.
Mais maintenant, c'est plus ça, là. Maintenant, je veux dire, ils te demandent c'est quoi ton signe astrologique.
Ça a toujours été ça.
Ils te demandent... Ouais. Et moi, j'avais jamais vécu ça. Puis plus jeune, c'est sûr que j'ai été chanceuse, là. J'ai été formée rapidement, tiens. Ce qui fait que j'ai vraiment pas été écartée, là, moi, dans ma vie, là. Vraiment pas. J'ai été surprise. La première fois que j'ai été écartée à SAQ, j'avais 22 ans.
Mais t'es une grande fille.
Oui. C'est oui, ça. À 15 ans, je pouvais rentrer dans les bars si je le voulais sans problème. Mais à un moment donné, c'est ça, j'ai remarqué que les questions qu'on posait à mes chums de filles changeaient. Là, si tu t'inventais une histoire, à tel toi.
Ah, ça a toujours été ça. Des fois, ils vont te challenger. Mettons que toi, ils savent que tu es plus jeune et que c'est pas vraiment tout sur le permis. Fait qu'ils vont te challenger. Ils vont dire « Ah, t'as quel âge exactement? OK, combien de mois? » Là, ils te mettent sur le stress. Puis après ça, c'est quoi ton signe astrologique? OK, mais c'est pas ça qui est écrit sur le permis. Et là, regarde, il est déstabilise constamment. C'était comme ça quand j'étais jeune. Fait que moi, c'était vraiment, je rentrais par la porte de côté. Si ça fonctionnait pas, j'attendais 10 minutes, je rentrais par la porte d'en avant, puis j'attendais de rentrer avec une grosse gang.
Si maudit.
Fait que le bonsoir était en pression, là, parce que des fois, il disait, hey, toi, t'es carte, puis là, il était occupé avec quelqu'un d'autre, puis toi, tu passais à côté du bonsoir.
Hein?
Ah ouais, c'était.
Moi, j'ai toujours été trop stressée pour ça.
Ouais, puis tu vois, la plus vieille chez nous, elle a attendu ses 18 ans. Pour aller dans un bar.
Mais je la comprends. Je pense que c'est plus masculin que féminin, par exemple. Là, ouais. Essayer de passer dans un bar malgré ton âge. Là.
Mais gars, je ne sais pas de quoi ça va avoir de l'air. Sérieusement, jusqu'à maintenant, ils ont de beaux modèles. Ils ont vraiment de beaux modèles avec qui ils se tiennent, des amis qui sont convenables.
Ouais. Mais malgré ça, tu veux sortir avant ton âge.
Je comprends. Mais tu sais, les influences, des fois, sont hyper importantes là, quand t'es jeune. Puis tu t'en rends pas compte que c'est de l'influence, mais tu rencontres un chum de gars qui est super cool. C'est un petit bum. Il fait ses affaires. Puis tout, là, tu dis, hey, crime, il est donc bien de l'air en liberté. Puis c'est attiré à la liberté. Il dit, hey, je vais me mettre chum avec. Puis là, il t'envoie dans un monde que t'étais pas supposé découvrir. Finalement, tu finis dans un gang de rue.
Ouais, ben là, ça,
hier,
c'est
c'était lundi. Puis là, on est rendu mardi. Puis je rentre dans un gang de rue.
Ça, c'est la pente fatale. Là.
Ouais, mais tu sais, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti de Québec avec mes enfants. Parce que je voulais que mes enfants soient établis en campagne. Puissent grandir en campagne avec des amis qui ne sont pas à l'abri de mauvaises influences. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a moins de chances.
Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire.
Il y a moins de chances en campagne. Sont
on, a
plus,
on a même réflexe aussi.
Ils sont plus là, masculinité toxique. Là. Mm. Tu sais, les quatre roues, les skidoos.
Wow, ça veut pas dire automatiquement masculinité toxique.
Ouais, je parle aux woke là, qui nous écoutent. Fait qu'ils sont plus tigas. Ils sont moins attirés envers justement envers la vapoteuse, la drogue.
Mais je te confirme que ça a une influence parce que tu vois, moi, mon chum a été élevé dans ce genre d'environnement-là. Tu sais, eux autres étaient à Shawinigan. Puis il a comme été élevé à Saint-Gérard-des-Laurentides, là, un petit peu plus loin, là, où il n'y avait pas d'influence, justement, ou de « Hey, on pourrait aller au bar samedi », il n'y avait pas ben de bar. Fait que c'était plus d'apprendre à jouer dehors, d'apprendre à socialiser. Puis tu vois, il n'a jamais eu le réflexe de vouloir, justement, sortir ou faire des mauvais coups. Moi, j'ai déménagé souvent, mais à mon adolescence, j'étais en ville. J'étais en ville puis j'ai rencontré des gens plus fréquentables.
Oui, c'est ça.
Fait que ça fait effectivement, je pense, une différence à un certain point.
Un de mes chums m'écrit, raconte quand on était au Bistrot Plus. Bistrot Plus, on rentrait là à 14 ans.
14 ans?
Oui, on était début secondaire. T'as quoi, 12, 13, À peu près. Ouais, puis là, t'entendais parler du Bistro Plus. Puis là, à 14 ans, là, c'était le temps. Tu t'en allais au Bistro Plus à la rue Saint-Jean. Puis le propriétaire, c'était le bonne soeur. Puis il avait déjà l'air d'une personne très âgée, genre 128 ans. Mais il était tout le temps là, tous les soirs, du lundi jusqu'au dimanche. Puis il était tout le temps à la porte. Puis comme c'était le seul bonne soeur de la place, ben lui, ce qu'il faisait, c'est qu'une fois de temps en temps, il était appelé en arrière pour c'est aider les barmaids et tout ça. Ouais. Puis là, nous autres, on rentrait. Puis c'était un bar de militaires en bas. Puis en haut, là, c'était comme la discothèque là, où les gens trop jeunes de Cardinal Leroy allaient veiller. Fait qu'une fois que tu étais rendu en haut, là, tu redescendais pas. Puis tu restais safe. Là. T'étais ouais. safe. Puis là, t'achetais de l'alcool. Puis t'avais une maudite belle soirée.
Moi, dans ce temps-là, j'étais dans le coin de Sainte-Thérèse, à Rive-Nord de Montréal. Puis c'était la Citadelle que ça s'appelait. Puis la Citadelle à Sainte-Thérèse, c'est là que les mineurs on allait. Parce qu'on savait justement que c'était un peu le même principe. Là, maintenant, le bouncer allait aider quelqu'un. Puis on pouvait rentrer, aller jouer au pool. On pouvait se cacher après ça des barmaids.
Ouais.
Puis la soirée était belle.
T'es-tu déjà fait payer dans une descente?
Non, jamais.
Et moi,
jamais.
Ça m'est arrivé deux fois. Puis les deux fois, j'avais pas mes cartes d'identité. Puis les deux fois, ils m'ont pas contrôlé.
Hein?
J'avais à Chienne. Ouais. Je vais avoir 16 ou 17 ans. Puis c'était au Bistro Plus, là, parce qu'il y avait eu une coupe de descente. Et les deux fois, c'était là. Puis les deux fois, les policiers demandaient les cartes à tout le monde. Puis moi, je les avais pas. Puis ils disaient, t'as-tu tes cartes? Je disais, non, j'oublie dans mon char. J'avais même pas de char.
Arrête! Moi, j'étais sage, par exemple. J'étais vraiment sage. Tu sais, j'ai pas testé souvent, mettons, là, je vais te dire, à part à la Citadelle où on savait qu'on était correct. J'ai pas mal attendu mes 18 ans après ça. Puis même à ça, pas été une grande sorteuse jusqu'au cégep, je te dirais. Où là, ça a été la folie. Là. La folie pendant 2-3 ans. Puis après ça, je me suis recalmée. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a tous des petits parcours différents à ce niveau-là, dépendamment d'où on vit. Le 88-971-1021, vous êtes sorti la première fois à quel âge?
Bon, écoute, la plupart, ça doit être 14, 15, 16 ans.
C'est tôt, là.
Ouais.
Aïe, aïe. Mais moi, j'avais le droit chez nous. Tu sais, ma mère, là, je pense que sachant la bibitte qu'elle avait entre les mains, assez rapidement, ça a été « Tu veux prendre un coup? Tu veux savoir c'est quoi? On va le faire. Amène tes chums à la maison. » Puis c'était avec mes parents. Fait que là, tu comprends, mes parents étaient donc les parents cool. Fait que ouais. Moi, j'étais contente. Puis on essayait à la maison. Fait que
t'es chanceux que la DPJ débarque pas chez vous, toi?
Là,
moi, j'ai une photo
ans,
de moi, OK? Je dois avoir 4 ou 5 ans, puis j'ai une crème de menthe verte.
Ah, mon doux!
Visiblement, c'était pendant le temps des fêtes, là. Puis j'ai une crème de menthe verte. Dans les mains, dans un verre de moutarde, tu sais, avec les... c'était les, mettons, les cartes, là, les deux de pique,
ces affaires-là.
Bon, ben j'avais une crème de menthe verte, puis je suis pris en photo de demain. J'ai aucune idée si j'en avais bu
ben, non.
ou pas.
Voyons. Il devait trouver ça drôle. Ça, c'est comme les photos que tu prends de tes jeunes kids qui ont une corona dans les mains. Là.
Ouais, mais ça, aujourd'hui, là,
ça
je mets la
plus.
Photo de mon fils
ben, ça marche pas.
Quand il avait 4-5 ans,
ben.
Avec un verre de crème de menthe verte.
Ça passe pas pantoute.
Ça passe plus.
Surtout toi qui es super actif sur les réseaux sociaux, pas long que la DPJ débarque.
Ben oui, j'étais un influenceur. Hey, Audrey, je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute tantôt quoi?
Korn.
On a des concours. Oui, Korn.
Korn. Korn. 88-971-1021.
La meilleure toune de Korn.
Voilà.
Deux billets. Vilain pingouin et délinquance. Merci, Audrey.
Ciao.
Salut. Sa mère allait.